marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Il faut parler de tableau plutôt que de l'œuvre.
Bonjour Monsieur Courbet.
Courbet, c'est pour le petit provincial comme moi, à ses débuts, c'est l'exemple du possible. Il est stimulant. Il est stimulant. Il dit, après tout, Courbet, c'est un fils de paysan. Je suis fils d'un petit commerçant. Pourquoi je ne deviendrai pas un jour un peintre? Pourquoi je ne ferai pas ma vie à faire des tableaux comme lui? Et pourquoi je ne ferai pas l'œuvre dans mon pays? Après avoir fait mes petits stages nécessaires ailleurs et quelque part dans le monde. Si cette terre d'ici a donné du génie à Courbet, par la beauté, par la violence des différentes saisons, par la variété des paysages et tout, pourquoi il ne m'en donnerait pas un peu à moi aussi?
Témoignage d'André Charigny. Entre le Doubs, où il est né en 1819, et Paris, où il monte en 1839, Gustave Courbet construit un rapport que beaucoup voudraient pouvoir imiter. À Paris, il affiche ses origines, il campe un personnage de paysan, la pipe fichée au coin de la bouche. Il se produirait volontiers en sabots, plein de paille. Et en même temps, dans son village, où il revient souvent, il n'est pas gêné de passer pour un artiste bohème de la capitale. Quand il peint un enterrement à Ornans, les habitants sont flattés d'être pris comme modèle par l'enfant du pays. Puis, quand ils apprennent ce qu'à Paris on dit de leur trogne, ils font la tête. Courbet se tient souvent dans cette situation, rompant le consensus aussi bien qu'il l'a créé et assumant la provocation non sans jactance. Il a commencé son parcours sous la monarchie de Juillet. Il aurait aimé pouvoir adhérer vraiment à la Deuxième République de 1848, mais la répression de juin a glacé ses espoirs. Il traverse sans trop d'encombre le Second Empire, surveillé d'assez près par le pouvoir qui ne le considère cependant pas comme très dangereux. Mais en 1871, il fait ce qu'il regrettait peut-être de n'avoir pas fait en 1848. Son engagement dans la Commune lui coûte cher. La chute de la colonne Vendôme, dont on l'accuse, provoque sa propre chute. Dès qu'il est libéré, il s'en retourne à Ornans, aspirant à replonger les mains dans sa terre, la Franche-Comté, et dans sa rivière, la Loue, et à peindre les truites et les hirondelles. Pourtant, il n'a bientôt plus d'autre solution que l'exil. Il meurt en Suisse en 1877, malade, esquinté par l'absinthe, mais, écrivait Jules Vallès, sous un ciel que n'avait pas terni la vapeur des grands massacres. Pour le premier centenaire de sa naissance, en 1919, son corps est revenu chez lui, à Ornans. Encore un effort, et il pourrait un jour entrer au Panthéon, ce monument aux pierres sévères et grises, si peu accueillant aux artistes, et qui serait éclairé par ces images populaires, joyeuses, chaleureuses. Mais ce serait une provocation qui ne ferait pas consensus.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Thomas Schlesser, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Alors vous avez donné votre dernier cours de l'année tout à l'heure, cours d'histoire de l'art. D'histoire de l'art à Polytechnique, à Palaiseau?
Mais oui, il y a une grande tradition de cours d'histoire de l'art à Polytechnique. Je leur ai parlé, pour tout vous dire, de l'art des années 1960 et notamment des grands lands d'artistes. On n'était pas tout à fait dans Courbet, mais finalement pas loin, avec des artistes qui s'en prennent au paysage, si je puis dire.
Avec des pelleteuses qui intéressent les ingénieurs.
Exactement, oui. Un artiste comme Michael Heiser utilisait des pelleteuses pour faire des trous dans le sol, c'est vrai.
Le département du Doubs, lui, manie avec précaution la pelleteuse pour rénover... Il paraît que c'est une réussite, le musée d'Ornans, la maison familiale de Courbet, qui a été agrandie.
Ça fait un moment maintenant, ça fait quelques années, mais je trouve que c'est en effet une grande réussite. On a même l'occasion de marcher au-dessus de la Loue avec un sol transparent, une espèce de moment de lévitation assez plaisant.
Bicentenaire décrété d'utilité publique avec trois expositions, un concert de Jordi Savall et un colloque. Dieu sait s'il y en a eu des colloques sur Courbet, hein, extraordinaire, que vous avez contribué à éditer aux presses du Réel, piloté par le psychiatre Yves Sarfati. C'est d'ailleurs aux presses du Réel que vous avez publié l'un de vos deux livres sur Courbet, Thomas Schlesser. C'est un fils de propriétaire terrien. Hein.
Oui, tout à l'heure, on entendait c'est un fils de paysan. C'est pas exactement ça. C'est un fils d'exploitant agricole. Alors, ça n'enlève rien à la carrière et à l'ascension sociale extraordinaire de Courbet. Mais tout ça pour dire qu'il vient quand même d'un milieu, qui est un milieu où il y a une grande culture, où il y a des idées idées politiques qui circulent, où il y a quand même un petit peu d'argent. Hein. Courbet ne vient pas de nulle part, du fin fond de la Franche-Comté, même si lui-même va un peu jouer avec cette image.
Avec cette image de la vie simple et bonhomme, tout près de la Loue que décrit ici Gaston Bordet.
C'est la Loue qui est une rivière, une résurgence du Doubs, et qui est une magnifique rivière à truites, et puis qui est vraiment une espèce d'oxygène pour toute cette vallée. Et autrefois, il y avait beaucoup d'activités, il y avait des moulins, il y avait des taillanderies, il y avait tout, on voit encore des traces, plus ou moins, de grandes roues à eau qui ont alimenté toute une industrie. La Loue, la vallée de la Loue était très industrialisée au sens d'artisanat, textile, métallurgique.
On retrouve des courbets tout le long en allant à Ouen. Hein. Au bord de la route, on dit, tiens, voilà un bout de courbet, un morceau de courbet, c'est un bout de falaise calcaire avec une certaine pente, avec un vert un peu particulier à la région ici, profond. Et puis, comme c'est une région où il pleut beaucoup, il y a beaucoup de ruisseaux, alors ça aboutit à l'eau, et puis l'eau court, il y a des truites, l'eau est claire, la couleur de l'eau de la Loue est particulière, quoi. C'est un peu magique.
J'ai jamais vu la vallée de la Loue avec des tons profonds comme il a fait dans ses tableaux. Jamais, jamais. Dans la vallée de la Loue, il y a toujours une légère brume. Ça n'a jamais cette puissance qu'il y a dans Courbet. Et puis on imagine tout ce qui se passait dans sa tête pour arriver à cette ampleur. Enfin, elle allait bien plus loin que la vérité.
André Charigny de Rochef et précédemment Pierre Bichet. Je ne sais pas s'il allait souvent à la source de la Loue, s'il ne lui avait pas de la peindre depuis Paris.
En fait, je crois qu'il faut d'abord se figurer Courbet comme une vraie force de la nature, comme un grand marcheur, un grand sportif. Vous savez, c'est un grand chasseur, Courbet. Donc, bien sûr qu'il a arpenté de long en large sa Franche-Comté natale, qui connaît très très bien la Loue, qu'il y a nagé, qu'il y a passé son enfance. C'est quelqu'un qui est imprégné physiquement. De ce qu'a été son environnement. Et par conséquent, je crois que c'est ça qu'on peut ressentir quand on voit les paysages de Courbet. C'est pas simplement un enregistrement photographique et pittoresque de ce que serait un coin de nature. C'est vraiment une expérience sensible. Et en effet, quand on entendait « il va plus loin que la vérité », je suis parfaitement d'accord avec ça. Il y a, au fond, avec Courbet, une intimité avec la nature qui prend tout à coup une envergure cosmique et universelle.
La source de la Loue, X tableau en 1864, qui représente cette grande entaille dans la falaise calcaire, 2 ans avant l'origine du monde. La source de la Loue, c'est l'origine de l'origine du monde.
Alors c'est souvent évidemment une interprétation qu'on fait, parce que vous savez, l'origine du monde, en effet, c'est ce sexe de femme cadré en plongée. Et quand Courbet peint les sources de la Loue, toute cette série de 1864, eh bien, au lieu de prendre l'intégralité de la paroi, qui fait quand même 100 mètres de haut, il se concentre uniquement sur la grotte, qui fait 60 mètres de large et 30 mètres de haut, je crois. Et puis, par ailleurs, il évacue tous les personnages humains alentour. Parfois, on en trouve un, vraiment une toute petite échelle. Et donc, c'est simplement comme une espèce de cavité mystérieuse, un grand trou noir devant lequel se trouve le regardeur.
On va faire avec vous, Thomas Schlasser, des allers-retours, des zigzags dans la chronologie. Revenons à 1840, 1849, 1850. Là, il y a toute une série de tableaux liés à Ornans, le retour des paysans de Flaget. Flaget, c'est une ferme familiale qui a été rachetée par le département du Doubs. Il faut rendre grâce au département du Doubs, vous êtes bien d'accord?
Oui, comment ne pas le faire?
L'après-dîner à Ornans, et puis les casseurs de pierre là, sur la route, et de dimensions gigantesques, aussi grands qu'une cérémonie du sacre ou qu'un récit de bataille avec des souverains, un enterrement avec de simples paysans, l'enterrement à Ornans.
Il faut que ça soit quelque chose de tragique, c'est la mort. C'est la mort, c'est un enterrement, mais c'est l'enterrement, c'est la douleur, c'est les pleurs des femmes. Et puis en même temps, c'est paysan, il faut que ça soit rusto, il ne faut pas tomber non plus dans le travers de faire du mauvais Bruegel, de traviole comme ça. Il y a des trognes dedans. Et c'est mélangé à côté de portraits admirables de femmes.
Oui. Ici, les modèles sont à bon marché. Tout le monde voudrait être dans l'enterrement. On a déjà posé le maire, qui pèse 400, le curé, le juge de paix, le porte-croix, le notaire, l'adjoint Marlet. Enfin, dans ce moment-ci, je suis sur le point de finir 50 personnages grandeur nature, avec paysage et ciel pour fond, sur une toile de 20 pieds de longueur, sur 10 de hauteur. Il y a de quoi crever.
C'est une lettre de Courbet à son ami Champfleury. Donc il y a aussi un portrait de sa mère, il y a aussi le frère qui pleure, le frère qui va entrer dans la tombe, et puis en arrière-plan, la montagne. Mais c'est un tableau qui ne peut pas donner une seule interprétation.
C'est un tableau incroyable. C'est un tableau incroyable parce qu'en effet, il y a tout un cortège comme ça, serpentin, avec des masses noires qui convergent vers une fosse qui est au premier plan, un demi-crâne coupé à côté, un chien qui détourne la tête, un petit crucifix. Et donc, la question qui se pose naturellement, c'est qu'est-ce qu'on enterre là ? Et en fait, le titre ne le dit pas, c'est un enterrement à Ornans. Alors, on peut faire une interprétation familiale. Courbet avait perdu une petite sœur, peut-être que c'est la sœur de Courbet. Mais on peut aussi imaginer, puisque le tableau est de 1849, que c'est un enterrement politique, l'enterrement de la République avec l'idéal dévoyé de la Révolution avortée de 1848.
Et vous dites une petite croix, on peut la voir très grande aussi, c'est une croix de procession. Alors, est-ce que c'est un tableau anticlérical ? C'est pas sûr.
C'est pas certain, mais enfin, étant donné les options de Courbet en la matière... On peut estimer que c'est quand même une relativisation de la place du Christ, avec en plus un ciel plombé, face au monde des hommes. Et la troisième chose d'ailleurs en la matière, la troisième interprétation possible, c'est celui d'un enterrement du romantisme, c'est ce que dira Courbet, c'est-à-dire du mouvement qui précède le mouvement réaliste. Et justement, le romantisme, c'est tout le mouvement de l'idéalisation, de la sentimentalité, des affects. Et cette mise à l'écart de la dimension religieuse, c'est aussi une manière d'enterrer le romantisme.
Et les paysans, les membres des corps des notables, tout aussi bien, ou le curé, ne sont pas idéalisés. Et alors, vous employez le mot « regardeur ». Ils sont projetés en avant, à la face du regardeur. Et le regardeur d'Ornans, je ne sais pas ce qu'il a pensé dans un premier temps, mais son jugement sur les portraits qui étaient faits de lui a changé aussi après qu'il a entendu les Échos de Paris, quand le tableau est présenté au salon et provoque à la fois de l'admiration, mais aussi de l'ironie.
Imaginez, vous avez Courbet qui commence à avoir une certaine notoriété à ce moment-là, qui vous dit, si tu veux, tu peux venir te faire peindre chez moi. D'ailleurs, dans un atelier où il a très peu de recul, donc il ne voit jamais l'œuvre en entier. Alors évidemment, les gens d'Ornans sont plutôt contents dans un premier temps. Ensuite, le tableau, il va circuler, il va faire plusieurs étapes, à Besançon, à Dijon. Puis finalement, il arrive au salon de peinture, c'est-à-dire l'événement officiel. Et là, il y a un accueil qui est plutôt contrasté. C'est-à-dire, d'un côté, il y a des défenseurs de cette avant-garde que représente Courbet, et il y en a d'autres qui s'en prennent à la soi-disant laideur des personnages, qui sont en plus à l'échelle 1-1. Donc, évidemment, qui donne le sentiment d'écraser la foule et le public. Et je crois que c'est plutôt l'écho un peu humiliant pour les gens d'Ornans qui a provoqué, en effet, ce courroux relatif contre Courbet, qui était quand même un homme plutôt apprécié dans son village natal.
Alors, il ne faut pas en faire seulement un peintre de la Franche-Comté. Il va par exemple peindre la mer et il est accueilli à Montpellier, c'est je crois comme ça qu'il va découvrir la mer, par un mécène, M. Bruyas, médecin très riche, un peu utopiste, un peu éthéré aussi. C'est le fameux tableau La Rencontre où on voit le bourgeois, la barbe rousse, qui accueille Courbet. Alors Courbet volontaire avec son sac à dos, son bâton, la barbe de profil en bataille. Enfin.
Alors cette barbe dont on dit que c'est la barbe d'un roi assyrien, alors il y a encore mieux dans ce tableau. Bruyas est accompagné d'un chien et puis de son serviteur. Et Théophile Gautier fait le reproche suivant au tableau, il dit il n'y a pas d'ombre portée, il y a une ombre portée seulement pour Gustave Courbet. Et il en déduit la chose suivante, à ses yeux, Courbet est le seul qui puisse arrêter les rayons du soleil.
Alors c'est dans un paysage de Garrigues qu'a lieu la rencontre, mais la mer...
La mer pour Courbet, c'est d'abord une rencontre qui a lieu en Normandie dans les années 1840, et puis ensuite il y a la mer Méditerranée dans les années 1850, et pour lui c'est un choc extraordinaire, à la fois en termes de lumière, de sensations et de sentiments d'infini. Il a des mots d'ailleurs assez beaux, Courbet, sur la mer quand il s'adresse à Victor Hugo, et puis ça va être le peintre des vagues, Courbet. Juste une petite anecdote à ce sujet, quand le peintre Miro est allé au au Louvre pour voir des Courbets. Il a confié que l'une de ses vagues, quand bien même elle était dans son dos, il pouvait la sentir. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas besoin de la voir pour qu'elle soit présente, tellement cette compacité de ce qui est normalement l'élément liquide est extraordinairement suggestive chez Courbet.
Alors le voyage à Montpellier, c'est au milieu des années 1850 et vient le temps d'un premier bilan en 1855 avec encore un tableau de dimension inouïe. Il aimait souvent faire de très 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 grands tableaux, l'atelier.
Malgré tout, je suis parvenu à faire l'esquisse de mon tableau. Et à l'heure qu'il est, il est entièrement rapporté au trait sur la toile qui a 20 pieds de longueur et 12 de hauteur. Cela fait le tableau le plus surprenant qu'on puisse imaginer. Il y a 30 personnages, grands comme nature. C'est l'histoire morale et physique de mon atelier. Ce sont tous les gens qui me servent et qui participent à mon action. Dans le fond du tableau se trouveront les baigneuses et le retour de la foire. Sur mon chevalet, je ferai un paysage dans lequel il y aura un meunier et des ânes qui portent des sacs au moulin. J'intitulerai cela « Première série », car j'espère faire passer la société dans mon atelier, faire connaître et aimer mes propensions et mes répulsions.
Un bilan, Thomas Schlesser, à l'âge que vous avez atteint maintenant, avant même peut-être l'âge que vous avez atteint maintenant.
Il faut ajouter que ce bilan, il intervient dans un contexte bien particulier, qui est celui de l'exposition universelle de 1855. Vous savez, c'est ce moment où, en fait, à Paris, sous l'égide de Napoléon III, on réunit toutes les plus grandes inventions du monde entier, et puis aussi où il y a une sorte de bilan qui est fait de l'état des arts à travers le monde. Et Courbet, dans ce contexte-là, eh bien, va décider, avec l'appui d'ailleurs d'Alfred Bruyas que vous évoquiez, Jean Lebrun, il va décider d'organiser une exposition individuelle légèrement en marge de l'exposition universelle, pour faire valoir de manière rétrospective tout ce qu'il a fait depuis une dizaine d'années. Et en fait, c'est un moment charnière dans la carrière de Courbet. On peut dire qu'après cela, après l'atelier, même s'il y aura des retours à des tableaux manifestes et de scandales, il va davantage se concentrer sur la représentation de la nature et de l'intime, et notamment de son pays natal, de la Franche-Comté.
Mais alors, quand on regarde tous ces tableaux qui sont représentés dans l'atelier en 1855, on voit qu'ils sont extrêmement divers, ce qui fait dire à certains, je pense au peintre Paul Robérolle, il n'y a pas une œuvre, il y a des tableaux.
Oui, alors c'est très divers, c'est exact, il n'y a pas de formule chez Courbet, maintenant il peut y avoir des séries, hein, et notamment, je citais les vagues, mais d'autres séries de paysages. Et puis, il y a quand même, et c'est ça que j'aime beaucoup chez Courbet, il y a des Courbets qui sont moins bons que d'autres, il faut bien se l'avouer. Pourquoi ? Parce que Courbet est quelqu'un qui prend des risques absolument tout le temps, et qui n'a pas peur de se tromper. Et même dans un mauvais Courbet, il y a de la très très bonne peinture.
Mais alors, il y a des Courbets qu'on ne comprend pas très bien, souvent les scènes de chasse. La Lali, par exemple.
Alors, la Lali,
c'est encore un énorme tableau, ça.
C'est un tableau de 1869.
Avec un cerf qui se...
Oui, qui est en train de mourir.
Qui est en train de mourir.
Une meute de chiens autour. Ouais. Et puis,
des chasseurs. Des chiens
dans un état, vous alliez dire second. Mais pourquoi ? Parce que, en fait.
Avec des sexes d'hommes en érection.
Exactement. Alors, ça, ce sont les recherches du psychiatre Sarfati qui ont montré ça. C'est que Courbet représente cette scène en génitalisant les animaux, leur donnant cet aspect anthropomorphe avec des sexes d'hommes en érection. Et en fait, ce tableau, c'est quoi ? C'est Courbet lui-même dévoré par la critique et dévoré par l'Empire. Mais c'est aussi une espèce d'exultation sadomasochiste absolument démentielle. Quoi.
Donc, on a noté que Courbet était aussi à interpréter d'un point de vue psychiatrique. Mais on va maintenant le faire, si vous le permettez, d'un point de vue politique. Alors, on zigzague hein, entre les époques. Je vous ai amené en 1869, en 1850, et après, on va encore revenir en arrière, vous allez voir. En 1850, il fait le portrait de Berlioz.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Thomas Schlesser qui a travaillé notamment sur la réception de Courbet d'un livre aux presses du réel à Dijon. Presse du réel auquel vous n'êtes pas complètement étranger. Oui, je disais, on va revenir en arrière, on va revenir en 1848. Il a beaucoup participé à la révolution de 1848.
Vraiment guère. Alors, un petit peu parce qu'il a fait juste une illustration pour un journal révolutionnaire éphémère qui s'appelle Le Salut Public. Mais en dehors de ça, il voit passer l'histoire sous sa fenêtre, mais il n'y participe pas. Il y a plein de raisons à ça.
On peut peut-être commencer l'histoire par le début, la campagne des banquets. Oui. Fin 47, début 48, évoqué ici par Raspail.
La corruption du régime était si grande et l'entêtement de Guizot à refuser toute réforme était si exaspérante que l'agitation secouait toute la classe politique. Ce qui m'a toujours étonné, c'est la façon dont ça a commencé. Avez-vous entendu parler de ces banquets monstres, qui étaient des manifestations tout à fait bon enfant? En décembre 47, voilà que des officiers de la garde nationale, ceux de la 12e Légion, veulent organiser un banquet. La 12e Légion... Et celle des quartiers Saint-Marcel et Saint-Jacques, c'est un quartier plutôt populaire. C'est elle qui se choisira Barbès comme colonel. Le gouvernement s'oppose à ce banquet, la 12e Légion récidive, alors on augmentera le prix des places pour faire plaisir à Guizot. Bref, il est question de ce banquet pendant 2 mois, et le 21 février, presque tout le monde est d'accord pour y renoncer. C'est ce jour-là qu'en ouvrant le National... qui est un journal de droite, un journal qui souhaite l'avenir au pouvoir de la duchesse d'Orléans. Donc, en ouvrant le National, je tombe sur une sorte d'appel au peuple lancé par un nommé Marat. Tous les citoyens décidés à combattre le gouvernement rétrograde de Guizot doivent se réunir demain, place de la Madeleine. Ils se rendront ensuite aux Champs-Élysées où aura lieu un banquet.
Marat, MA2RAST, hein, c'est pas le même que celui de la révolution de 1789, on parle de la révolution de 1848, il aurait pu participer à un banquet, Courbet, il était assez porté sur l'alcool, enfin, bien sûr, de plus en plus avec les années. Ça vous a donné une idée d'ailleurs, tiens, vous?
Mais oui, parce qu'il en a fait des banquets, il en a fait un, par exemple, une grande fête du réalisme en 1859. Eh ben, écoutez, pour le bicentenaire, avec quelques acolytes, on va faire un grand banquet au bistrot de Paris, le 10 juin, de 9h30 à 23h, dans un esprit complètement courbétien, de décloisonnement, de rencontre entre les centres et les périphéries, évidemment
avec
de fêtes, de boissons.
Des socialistes.
Il y aura un panel exceptionnel, avec en plus de la musique aussi. À ce sujet, vous savez, Courbet était lui-même musicien, et quand Berlioz l'a accueilli chez lui pour lui demander de faire son portrait, eh bien, Courbet s'est permis de lui faire quelques remarques et de lui soumettre ses propres compositions.
Tout renseignement utile sur ce banquet sur notre site. Vous parlez du 10 juin. Bon, il n'a pas beaucoup participé à février. Il a été déçu, même horrifié par la répression de juin 48. Et vous avez une thèse, vous, alors, qui relie 1848 et 1871, parce qu'on sait qu'en 1871, Courbet a accepté des responsabilités de protection du patrimoine, pourrait-on dire, dans la Commune de Paris.
C'est ça, il s'occupe de la Fédération des artistes, c'est un membre actif de la Commune de Paris, pacifiste, hein, c'est pas un violent. Mais il y a quelque chose qui me fait dire que Courbet s'engage dans la Commune à la fois des convictions qui sont absolument sincères, mais aussi parce que c'est l'occasion pour lui de réparer cette occasion manquée de 1848. Ce qui me le fait dire, c'est que dans une pièce d'archives, il s'exprime de la manière suivante. Il dit « En 1848, il n'y en avait que deux qui étaient prêts, c'était Proudhon et moi. » Et comme Courbet n'y a pas participé, s'il se sent obligé de réparer symboliquement en mentant sur son propre engagement de 1848, c'est qu'à coup sûr, il en a ressenti une profonde frustration. Et ça explique le courage physique dont il a fait preuve en 1871 en s'engageant dans la Commune.
Était-il physiquement présent au moment de la chute de la colonne Vendôme? On ne va pas discuter à l'infini de cette question. Il est condamné au fond 2 fois par un tribunal militaire, emprisonné à Sainte-Pélagie. Et une fois qu'il peut retourner à Ornans peindre ses hirondelles et ses truites, un tribunal civil a fait engager des poursuites contre lui qui avait fait la promesse de restaurer la colonne Vendôme à ses frais. Un mot de la mélancolie de la fin, et c'est un mot faible que mélancolie.
Comme Courbet est un peintre qui respire en règle générale l'énergie et la joie de vivre. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'œuvres mélancoliques qui détonnent et qui ont des accents funèbres vraiment poignants, notamment ces truites qui sont des truites en train d'agoniser avec juste un filet de sang sur le point de mourir. Ces natures mortes avec ce sentiment de déliquescence qu'il peut y avoir. Certaines de ces scènes de chasse. La fin de Courbet est vraiment triste. Elle est vraiment triste parce qu'il meurt avant son père, ce qui est, je pense, une chose assez terrible. Et parce qu'il y croit jusqu'au bout, mais malade à cause de l'absinthe, de ses excès de toutes sortes et de son exil. Eh bien, il meurt loin de son pays, pas très loin, mais de l'autre côté des Alpes, en Suisse et non pas en Franche-Comté.
Mais alors, j'ai cité Vallès dans le chapeau. Vous appréciez beaucoup l'article que Jules Vallès, en 1877, a publié sur la mort de Gustave Courbet.
Magnifique, hein, ben oui, évidemment. D'abord, j'adore Jules Vallès en règle générale. Et parce qu'il y a vraiment la rencontre entre deux géants qui se rejoignent en plein de choses, mais sont assez opposés, je crois. Je pense que chez Courbet, il y a quand même une générosité, une rondeur. Chez Vallès, il y a une aridité et une violence qui est très différente. Mais les extrêmes peuvent se rejoindre.
Ils interrogent tous les deux le même ciel où les vapeurs des grands massacres ne se sont pas produites. Merci à vous, Thomas Schlesser.
Merci, Jean-Louis.
Vos livres chez Quimet, avec Bertrand Tillier. Et aux presses du réel, et puis les festivités du département du Doubs sur notre site. Tous les détails sont donnés.